Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous, je suis très content de partager ce message. Ça fait un certain temps que j'ai été absent. Bon, vous savez que j'ai eu un petit incident là, pendant les fêtes. Je vous conterai ça un petit peu plus loin là, dans une prochaine prêche, là, parce que j'ai un très bon témoignage, en même temps un témoignage d'évangélisation qui a été vraiment une expérience extraordinaire. Je vais revenir là-dessus. En fait, c'est un appendicite classique, mais moi, il y a eu des petites complications, puis je vais pouvoir vous en parler plus tard. Comme équipe pastorale, on a décidé de faire des prêches un petit peu plus courtes, étant donné qu'on est en direct chez vous, parce que, bon, au moment de l'année, l'attention sur l'écran, des fois, il faut décrocher un petit peu. Fait qu'on a décidé. Alors, mon message, pour être capable de tout compter, je vais le séparer en deux. Donc, ça va être une genre de série. On va se voir le 3 mai. En tout cas, c'est moi qui vais prêcher si tout est comme on avait prévu, là. On sait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de prédire. Donc, il va y avoir une deuxième partie là, au début mai, le 3 mai, là, si la date est toujours la même. Donc, ça fait plaisir de partager ce message. Et dans ces temps difficiles, là, présentement, qu'on vit avec la COVID-19, bien, c'est évident qu'en tant que chrétien, je pense, et on a parlé beaucoup en équipe pastorale, en équipe à l'Église des Réunions, qu'il faut donner l'exemple. Donc, je vous encourage fortement à suivre les directives. Il ne faut pas avoir peur de la pandémie. Il ne faut pas avoir être stressé par rapport à la pandémie parce que Dieu est avec nous. Dieu est là pour nous protéger. Dieu est là pour nous répondre à nos questions. Et il est là pour venir nous toucher, nous transformer, nous protéger. Mais d'un côté, il ne faut pas non plus être hasardeux et ne pas suivre les directives parce que là, on donne un témoignage différent par rapport à la société. C'est à nous à donner l'exemple. On suit l'isolement. Je vous encourage à rester chez vous, à faire attention. Si c'est vraiment obligatoire d'aller chercher des choses, on le fait, on s'en va au supermarché. Mais faites attention, lavez-vous les mains, 20 secondes, comme on dit, suivez les directives de notre premier ministre et d'un directeur de la santé publique au Québec. C'est bon? Ceci étant dit, bien, on va commencer le message. Je suis assez content de pouvoir vous parler aujourd'hui. Il est dit que nul ne peut s'approcher de Jésus que par Dieu ou l'Esprit. C'est-à-dire, nul n'est bon, on n'est pas bon, on n'est pas, on ne cherche pas la montée, on est différent l'un à l'autre. Et parfois on pense qu'on est meilleur qu'un autre, mais on ne l'est pas. On est tous égaux, on est tous pareils. Nous avons tous besoin de Jésus. Et c'est ça qui fait qu'on est égal entre nous. Okay? Nous sommes tous égaux et c'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. On a tous besoin de l'Esprit et nul ne va au Père que par Jésus. Donc, on voit qu'il y a un cycle. Donc, il faut s'approcher de lui lorsqu'il nous appelle. Cependant, une fois que vous êtes attiré, une fois qu'on est attiré par Dieu, peu importe le moyen, bien, on a un devoir, nous, de pouvoir le chercher, de s'approcher de lui, de persévérer et de le chercher pour le trouver. Car il y aura toujours de l'opposition. Il y a l'ennemi de Jésus. Il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas. Il y a l'ennemi de Jésus qui ne veut pas qu'on le rencontre, qui ne veut pas qu'on s'approche de lui. Alors aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, laissez-vous toucher par Jésus, qui est ressuscité et vivant maintenant. Jésus peut vous transformer, peut nous transformer, peut vous transformer. Vous qui êtes chrétien depuis longtemps, pour vous qui n'avez jamais entendu parler de Jésus, ou vous qui êtes touché, mais ne prenez pas de décision, bien, je vous encourage d'écouter ce message et vous serez touché par Jésus. Pas par ma parole, pas par moi, mais par Jésus, par l'Esprit de Dieu qui veut absolument vous toucher. On va faire un mot de prière. Seigneur, je te demande par la puissance du Saint-Esprit de venir toucher les cœurs maintenant, de venir toucher les cœurs où les gens sont, dans le confinement, Seigneur, dans l'isolement, et pour respecter les directives. Seigneur, je te demande de venir nous remplir, toucher nos cœurs, que ton Saint-Esprit agisse, parce que rien ne peut faire que par toi. C'est toi qui touches, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui convainc. Et Seigneur, on te demande d'agir. Amen. Alors, mon message aujourd'hui, de toute façon, vous avez vu un peu la publicité là, sur Internet, « Cherchez, trouve ». OK, donc là, si je vais faire attention, là, vous êtes supposé voir l'écran, et j'espère que vous allez bien, vous êtes concentrés, on commence. Donc, cherche et trouve. Le message, c'est cherche et trouve. Comme j'ai dit tantôt, Dieu nous approche. On a besoin de lui parce que par nous-mêmes, on ne ressent pas le besoin. On a besoin de le sentir lorsqu'il nous touche. On a un vide, mais c'est lui qui s'approche de nous et c'est nous qui allons vers lui. Et je ne sais pas si vous avez des enfants ou vous êtes entouré d'enfants autour de vous de bas âge, vous avez certainement eu un rapprochement avec le jeu « Cherche et trouve ». Là, vous voyez ici, là, c'est des animaux et à gauche, il faut comme pointer à l'enfant, on dit « va chercher ça » et là, il faut qu'il le trouve. Je trouve ça vraiment intéressant au niveau cognitif, où l'enfant doit, OK, je dois ça, il doit associer l'image, trouver l'image, et ainsi de suite. Et naturellement, quand tu le fais trop souvent, bon, ils savent par cœur, alors on augmente. On trouve une autre image un peu plus complexe, avec des images à droite, et même tu peux choisir des images qui n'est pas dans la liste à droite, et c'est le fun de voir l'enfant évoluer. Et naturellement, il y a des cherche-et-trouve un peu plus compliqués, et c'est là, quand ça arrive, là, que c'est ton enfant qui le trouve, pas toi, là tu commences à sentir que tu vieillis. Et là, j'entends les rires, vous riez chez vous, amen, tant mieux. Alors, le cherche-et-trouve, c'est ça, on te demande de chercher quelque chose et tu le trouves. Ton but, c'est de le trouver. Bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Et là, on va s'inspirer d'un passage que je trouve merveilleux. Un passage qui a l'air simple, spectaculaire, mais simple. Mais quand on réfléchit, quand on passe du temps, c'est un message que j'avais à cœur en décembre, au moment où j'étais hospitalisé. Je l'avais un peu avant, mais j'ai pu le développer. J'avais le temps un peu plus vers la fin, parce qu'au début, c'était difficile. C'est un message que j'avais à cœur depuis longtemps, que j'étais supposé prêcher là, au début de l'année. Et c'est un message que plus tu le découvres, hein, la dernière fois, on avait parlé du message, la lettre à Onésime, à laquelle Onésime qui s'enfuit, qui finalement se retrouve en prison. Et là, on trouve que, waouh, quand on le regarde, quand on l'approfondit, mais c'est un rendez-vous divin. Onésime s'est retrouvé en prison avec Paul et Dieu s'est occupé de lui. Bien, c'est un peu le message aujourd'hui où Dieu nous aime et Dieu, si on le cherche, il va nous trouver. En fait, le message, et là, on le voit ici, c'est « Cherche et trouve, le voyage d'un Éthiopien ». Je ne sais pas si vous connaissez le passage, sûrement vous en avez entendu parler. Okay? C'est un passage à laquelle un Éthiopien se rend à Jérusalem pour pouvoir être touché. Ça se trouve dans le passage des Actes des Apôtres, je peux vous donner l'acte 8, versets 26 à 31. Et si on regarde ça, il semble simple. Okay? C'est un étranger, un Éthiopien, un eunuque. Et là, il y a un mouvement de l'esprit à travers ce message-là, averti par un ange. Il se fait enlever à la fin. Je me demande si finalement, il n'avait pas vu Philippe, vraiment vu. Il s'est peut-être demandé, là, peut-être que je ne l'ai pas vraiment vu, ce Philippe-là. C'est peut-être un ange, une chose, mais nous, on le sait parce qu'on connaît l'histoire. Philippe est vraiment réel à laquelle il s'est rendu là-bas. C'est spectaculaire dans l'ensemble, mais si on voit... Je pense au point central de ce message-là, c'est que Dieu est là. Cet Éthiopien-là cherche, et au bout de la ligne, on va voir qu'il va le trouver. Okay? Et donc, si on lit ensemble le passage dans Actes 8, versets 26 à 31, on va juste en prendre une partie, puis un peu plus tard, on va aller chercher l'autre partie. Comme je vous l'ai dit, il va être en série, donc il va y avoir un message aujourd'hui, puis un autre message qui va suivre. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, et là, on le voit ici, si vous voulez le lire, mais vous êtes chez vous, là, vous n'avez pas d'excuses. La Bible est sûrement pas loin, vous pouvez la regarder à votre écran, surtout si vous avez deux écrans. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est incroyable. « Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour l'adorer, pour adorer. » s'en retournait assis sous son char et lisait le prophète Ésaïe. Quel beau message! Et là, l'Esprit dit à Philippe, il continue à agir l'Esprit, dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Est-ce que vous sentez le côté très profond de ce message-là, même s'il a l'air si simple? Il y a tout un volet où Philippe est appelé à faire une chose. Philippe s'approche. L'Éthiopien dit, « Bien, je comprends pas ce que je lis. Est-ce que tu es capable? Il faut que quelqu'un me le dise. » Et Philippe s'installe pour pouvoir se préparer à parler de ce message. Juste donner le contexte un peu... Philippe, il est là, mais juste avant, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que quand Paul, c'est une partie de l'extrait du passage qu'il veut partager avec vous maintenant. OK. La persécution était grande. La persécution était grande par les gestes de Saul, de Paul. Et la plupart des apôtres ont été dispersés dans plusieurs régions. Là, c'est ça le contexte. Là, Saül est déchaîné, il attaque les chrétiens. Et dans Actes 8:8, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. On ne parla pas, okay, aujourd'hui de ce passage, mais il y a eu des conversations, des prodiges, des miracles. C'est là que les disciples comprirent, okay, que le message de Christ était pour tous, non seulement pour les Juifs, mais pour les autres aussi à travers le monde. Au point de faire déplacer Pierre et Jean en Samarie, okay, pour aller vérifier, constater ce que Dieu avait fait. Pour être certain, se souvenant de ce que Jésus peut-être avait dit et de ce qu'il avait fait avec la Samaritaine au puits, il dit, « Je vais aller voir ce qui se passe en Samarie. » Et les Samaritains étaient des non-juifs pour la majorité des Hébreux. Contrairement à la majorité des Hébreux, ils étaient en marge parce qu'ils ne suivaient pas les ordres que Dieu, selon les Hébreux, suivait. Le passage est juste un peu avant Acte 8. Donc ça s'est passé juste un petit peu avant Acte 8 que je viens de vous lire entre 26 et 31. Juste pour penser. Et là, Philippe vient vivre quelque chose d'extraordinaire. Il a prêché en Samarie. Les gens ont été touchés. Il y a des signes, des prodiges, des miracles. Et là, tout d'un coup, l'ange du Seigneur lui dit, « Bien, va dans telle direction. » Et il le fait. Wow! Philippe, c'est un disciple comme les autres. C'est un disciple, je veux dire, c'est un disciple qui était au début, là, quand Jésus a choisi ses disciples. Il était parmi les autres disciples. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques et Simon et Jude. Donc, Judas faisait partie de l'équipe. Il était certainement gonflé de son expérience. Et là, il entend une voix qui lui dit, « Un ange du Seigneur, vas-y, il s'adresse à Philippe, va où je t'ai demandé. » Mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'Éthiopien, parce que c'est spécial dans ce passage-là, la place que cet Éthiopien prend. Ça a l'air simple, mais si on le présente comment qui. Donc, premièrement, c'est une nationalité éthiopienne. Nationalité éthiopienne. Et il vient, et là, on voit l'image, là, on voit l'Éthiopie qui est très au sud. On voit la mer Rouge là, qui est là présentement. Et juste au nord, c'est Israël. Okay? Et lui, il part de l'Éthiopie pour pouvoir se rendre à Israël, à Jérusalem, dans le temple de Dieu. Deuxièmement, c'est un statut civil. C'est un eunuque. Oh, attends, un eunuque, c'est quelqu'un, je le dis très ouvertement, castré, donc il ne peut plus avoir d'enfant. Et donc, il était souvent utilisé pour surveiller les femmes qui étaient le harem, pour un roi. Mais là, étant donné que lui, il était pour une reine, sûrement, c'était des femmes qui servaient la reine, qui étaient là pour lui parler, pour l'aider, pour l'habiller, les choses. Et donc, on voulait avoir quelqu'un qui s'occupait d'eux et leur royaume, qui ne puisse pas avoir des relations sexuelles. Et donc, à ce moment-là, il était un eunuque. Puis je sais qu'il y a certains célibataires sûrement qui ne voulaient pas dans le temps de prière entendre « Je veux que tu sois un eunuque, là. » Et là, je le sais parce que moi, rendu à 35 ans, j'avais dit « 35 ans, Seigneur, je n'ai pas trouvé ma femme. Bien, peut-être que tu veux que je ne me marie pas toute ma vie. » J'avais donné un ultimatum. Je te dis que je commençais à être nerveux quand j'ai eu 35 ans. Je commençais à avoir une nervosité. Et là, je dis « Seigneur, Seigneur. » Et j'ai trouvé ma femme dans l'année de mes 35 ans, donc au mois d'octobre, ma femme, elle m'écoute. « Allô, je t'aime, ma femme, Michel Bourassa, pour ceux qui ne le savent pas. » Et on a toujours cette impression en tant que célibataire, « Est-ce que, Seigneur, tu me demandes de rester seul toute ma vie, et les femmes aussi? » Mais sachez que Dieu est pour vous, il va répondre à vos besoins et de ne pas vous inquiéter, il va être là. Amen, et célibataire, célibataire. Oh, je vous entends. Grand amen. Wow. Faites attention de briser vos micros. Amen. Alors, c'est le statut civil, l'eunuque. C'est un eunuque, OK? Donc, c'est spécial encore. Troisièmement, il y a la position de ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Ce n'était pas quelqu'un de banal. Ce n'est pas quelqu'un... Je ne dirais pas ça, parce que peu importe ce que tu fais, il n'y a pas de sous-métier, comme on dit au Québec. Mais il y avait une position très importante. Ce n'était pas n'importe qui. La reine, sûrement, lui a permis de quitter. Il a eu la permission de la reine pour pouvoir se rendre à Jérusalem et aller adorer Dieu, le Dieu d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez, là, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors. Ça, là, je ne sais pas si je parle aux Québécois d'origine africaine. Ce n'est pas nouveau. Hein? Donc, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui, là. Vous pouvez vous rassurer que c'était comme ça avant. Le protocole, c'est important en Afrique. J'étais allé deux fois en Afrique. Et moi, quand je disais que j'étais ingénieur, enseignant, pasteur jeunesse, wow! Là, j'avais tout un statut, mais en fait, moi, j'étais simplement Frank. Donc, on voit pour un petit clin d'œil pour, pour les Québécois d'origine africaine, ils vont comprendre au niveau du protocole. Donc, il y avait vraiment une position importante, OK? Et quatrièmement, c'est la raison de son voyage. Son voyage, c'était strictement pour se déplacer, pour adorer Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable de ce passage-là de réaliser qu'un étranger s'est déplacé pour pouvoir se rendre là-bas. Et parfois, il y avait plein de gens autour du temple qui auraient pu adorer Dieu, mais lui, il s'est déplacé. Souvent, on a besoin de ces touristes-là pour nous rappeler un petit peu notre milieu. Hein? « Oh, Montréal, c'est beau, c'est vrai. » Puis il faut amener un touriste sur le Mont-Royal pour dire « Hey, c'est vrai, je ne viens pas assez souvent. » À Vancouver, c'est la même chose. Je suis allé plusieurs fois à Vancouver, 6 fois. Et moi, j'étais émerveillé de voir les montagnes, mais à un moment donné, les gens, ils s'habituent. Et c'est triste de voir qu'il y avait un temple proche et les gens pouvaient s'approcher de Dieu facilement. Et il aurait pu le faire, il y en a qui ne le faisaient pas. Mais l'Éthiopien est parti de loin pour pouvoir aller vivre cette expérience dans le temple de Dieu. Hey, c'est drôle, ça me fait penser à quelque chose, ça. Attendez, là, ça me fait penser tout ça sur le nuque, l'Éthiopie. Hey, ça me rappelle quelque chose. Attendez, oui, la reine de Sheba ou Saba, peu importe, qui avait quitté l'Éthiopie pour aller voir Salomon. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là? Salomon, c'était un des rois, fils de David, fils de David, il était roi d'Israël. Selon le cœur de Dieu, on a parlé souvent ici en salle. Salomon, c'était son fils à laquelle il a hérité du trône de par David, et en même temps, il a reçu beaucoup de choses. Okay? Et en même temps, il a été récompensé parce que Salomon, au lieu de demander la gloire et la richesse, quand Dieu s'est approché, « Qu'est-ce que tu désires? » Il a dit, « Je veux la sagesse et l'intelligence pour gouverner, pour diriger mon peuple. » Et Dieu a dit, « OK, tu m'as demandé l'intelligence et la sagesse, bien, je vais te donner aussi la gloire et la richesse comme jamais tu as connu. » Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Et la preuve, on va le voir justement là. Et il n'a pas lésiné, il ne s'est pas restreint Dieu, parce qu'il voulait qu'à travers Salomon, à travers le peuple Israël, ça soit un message. Alors, lisons le passage. OK, donc la reine est partie, là, je ne sais pas si c'est clair un peu sur l'image, elle est partie d'Éthiopie, qui est en bas, on voit l'Éthiopie, et s'est rendue complètement en haut, jusqu'à Israël. Juste à Israël. C'est tout un voyage là, qu'une reine se déplace. Et on va en parler un petit peu. C'est ça, qu'il se déplace. C'est vraiment extraordinaire, parce que c'est souvent très dangereux qu'une reine ou un roi se déplace pour aller dans un autre pays, parce qu'ils peuvent être attaqués par leur adversaire. Donc, c'est assez intéressant. Et on voit l'image ici, OK, où la reine se présente devant Salomon pour pouvoir lui dire qu'il est arrivé et converser avec lui. On va lire le passage pour nous donner une meilleure idée. OK, dans 1 Roi 10, 1 à 9. Donc, on lit ça ensemble. « La reine de Sheba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. » Pardon. « Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or, en très grande quantité des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. » La suite, c'est « La reine de Sheba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et l'aimait de sa table, et l'aimait la nourriture de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses gichachons holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même! » Ça, souvent, je dis à mes étudiants, là, quand je suis en train d'enseigner quelque chose, là, puis je totalement dépassée, j'ai goût de sortir de mes souliers. C'est ça, en fait. Elle est hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position, de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qu'ils entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. C'est incroyable ce passage-là et tout ce qu'il peut dire. C'est incroyable. Je ne sais pas si on y pense bien, là. Si on réfléchit, si on s'arrête un petit peu. Là. Premièrement, comme j'ai dit tantôt, il est rare qu'un roi ou une reine se déplace, mais elle le fait, parce que c'est trop dangereux, comme j'ai dit. Elle a fait jusqu'à 4000 kilomètres, selon la carte géographique de Google. Là. Et 4000 kilomètres. Wow, 4000 kilomètres. OK, attendez. C'est longtemps, ça, 4000 kilomètres. C'est aller à Vancouver. Vancouver, c'est 4500 à peu près. Imaginez, là, qu'aujourd'hui, si on prend la voiture puis on décide de faire 4000 kilomètres. Bon, j'ai fait des chiffrons là, pour que ça soit le calcul simple. Là. 100 km/h. Mettons qu'on roule à 100 km/h parce qu'on respecte la limite. Hein, tout le monde respecte la limite. Et là, ça nous donne 40 heures. Ben, 40 heures, si je fais 10 heures par jour, ça veut dire que ça me prend 4 jours. Ça, c'est avec la voiture. Ça, c'est avec la voiture d'aujourd'hui. Et là, tu n'arrêtes pas trop souvent, tu ne fais pas trop de pipi, tu manges assez, tu fais attention, il y en a qui font plus d'heures. Là, j'ai dit 10 heures, mais ça se peut que vous fassiez 6 heures. Est-ce qu'on comprend que c'est loin? Et là, imaginez, ils sont en dos de chameau ou dromadaire. Je ne sais pas c'est lequel, là, deux bosses, as-tu plus d'essence qu'une bosse? En tout cas, ça va dépendre du coût de l'essence. Je ne sais pas si le dromadaire était en forme pour ça, là. Mais pensez-y, il s'éloignait, il se déplaçait en dos de chameau. Là, on voit un petit peu l'image qui est ici, c'est une image fictive, naturellement. Et je ne sais pas si vous sentez, en plus, il y avait peut-être des portiers, peut-être que ce n'est pas un dromadaire, peut-être que c'est des portiers qui entraînaient, on voit ça souvent, la reine. Imaginez le temps que ça prenait, je ne sais pas comment ils prenaient d'essence eux autres pour pouvoir le faire, mais c'était loin, c'était très loin, très loin. Et il y avait une suite. Donc, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait la nourriture, il fallait amener des animaux pour nourrir les gens, les serviteurs. Imaginez que là, ils se déplacent et les gens voient ça se déplacer et les gens sont curieux pour aller leur demander pourquoi vous faites ça. Imaginez tout le travail du réseau social. Là. C'est un message qui est envoyé. Je m'en vais à Jérusalem pour parler à Salomon, que tout le monde dit qu'il est grand, qu'il est plein de gloire, que Dieu le bénit. Et je veux aller au temple, je veux aller le voir, je veux aller constater de mes yeux. Imaginez toute la publicité que ça fait. C'est incroyable. C'est le réseau social du temps. C'est comme ça qu'ils faisaient de la publicité pour parler de Jésus. Je suis complètement excité. Bon, faire sa part, c'est vraiment touchant. Moi, je trouve ça touchant. Okay? Car Dieu avait mentionné que le peuple d'Israël serait un témoignage pour les nations. Okay? Et ça, vous savez qu'Israël devait propager la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il demandait au peuple de suivre ses commandements pour qu'il soit un modèle. Comme nous, on est un modèle en tant que chrétien. On est les témoins de Jésus, on est témoins de Dieu. Pour ça, quand je dis COVID, soyez un exemple, soyez un modèle pour les gens autour de vous en disant « Non, non, moi je respecte parce que c'est important, respecter la société, mais les personnes autour de moi. » Et c'est un message qu'on envoie. Et là, c'est ce qui arrive. C'est le peuple d'Israël était vraiment un peuple mis à part. Non parce qu'il était meilleur, pas parce qu'il était plus beau, plus fin, juste parce qu'il y avait le rôle de propager la gloire de Dieu, la réalité de Dieu. Okay? Et si on regarde dans l'Ancien Testament, ben il y a plein de passages qui mentionnent ça. On va les regarder ensemble. Si on va dans Ésaïe 44, 6, 8, « Ainsi parle l'Éternel. » Roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre Rocher, je n'en connais point. C'est incroyable. Moi, ça vient me chercher. Là. C'est un peu ce qu'on vit à travers ce que la reine va nous présenter à travers ce passage-là. Si on regarde aussi dans 1 Roi 8, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, le nom de Dieu, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. D'autres petits passages. dans Sophonie 3, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel pour le service d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Des grandes viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. » C'est mentionné dans Psaume 68. Donc, le rôle de Salomon était clair. Okay? La semence que Dieu a plantée à travers lui, en jouant son rôle, cela a fait du fruit à tel point que cette reine est venue de loin, peut-être de ce coin-là, de loin, pour vérifier, selon son cœur, toujours cœur à cœur avec Dieu, ce qu'elle avait entendu du roi Salomon et la gloire, et elle s'est déplacée pour vérifier cela. C'est incroyable l'influence que Salomon a eue. Est-ce que nous, on a cette influence envers les personnes qui nous entourent? Je me parle à moi, effectivement. Si on regarde dans un prochain passage, dans 1 Chronique 28, 9, « Et toi, Salomon, mon fils, c'est David qui parle, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Le message, c'est « cherche et trouve ». Parce que quand on cherche d'un cœur sincère, on va le trouver. Et si on regarde le prochain passage dans Matthieu 7, il me semble que Jésus nous avait dit la même chose dans le Nouveau Testament. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on l'ouvre à celui qui frappe. » Et c'est ce que la reine a fait. La reine s'est déplacée. On peut juste faire un petit résumé sur son mouvement, là, on voit ici à l'écran, la reine a cherché. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. C'est un cœur à cœur, elle s'épanche. Elle a voulu en savoir plus, vérifier si ce que tu dis était vrai, parce qu'elle naturellement était sûrement impressionnée. Peut-être que dans son pays, ça ne se passe pas si facilement, que c'est difficile, il y a beaucoup de guerres, mais lui est en paix. Il était en paix, Salomon. Il était en paix autour de lui, et la richesse coulait à flot. Okay? Dans le deuxième, elle dit, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position, de ta sagesse. Donc, ça veut dire que ça marchait. Le message se transmettait par les réseaux sociaux, ça se rendait jusqu'en Éthiopie. Vous savez, c'était loin, là, 4000 kilomètres. Donc, les gens parlaient de bouche à oreille, ou comme on dit dans la Bible, de bouche à bouche dans le temps, et ça se rendait jusqu'à là-bas. Donc, il y avait de la publicité. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. C'est comme Thomas dans le Nouveau Testament, où il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Il a fallu qu'il mette ses mains dans le creux des trous du côté et les pieds pour qu'il croie. Donc, elle est venue. C'est normal parce qu'elle était étrangère, elle est venue de loin. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse, de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Et finalement, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône de sa sagesse. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Donc, Dieu est présenté comme un Dieu d'amour. J'aimerais aujourd'hui parler de deux expériences. Deux expériences, l'expérience de l'eunuque et l'expérience de Philippe. Je vais commencer par l'expérience de l'eunuque et l'expérience de Philippe va aller dans le prochain passage. On va voir un petit peu comment il a pu vivre ça, cette personne. Okay? Et si on s'en va, premièrement, l'expérience de l'eunuque, il vient de loin. L'eunuque venait de très, très loin, on l'a vu, 4000 kilomètres. Okay? Et tout ce qu'il avait dans le cœur, il était ouvert, il était prêt à recevoir. Il est parti de l'Éthiopie pour aller adorer Dieu à Jérusalem. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait, là. C'est pas quelqu'un qui cherchait pas, là. Il cherchait sincèrement d'aller s'approcher de Dieu dans le temple et encore la reine le laissait aller parce que c'était pas évident là, qu'il le laisse aller parce qu'il était important dans le gouvernement de la reine de Candace. Et donc, dans la reine d'Éthiopie, il s'est rendu jusque-là. Ça veut dire qu'il cherchait. Est-ce que nous, nous cherchons assez Dieu dans notre vie? Parce que lui était prêt à faire un long voyage pour aller trouver Dieu. Deuxièmement, il va à Jérusalem pour adorer Dieu. C'est incroyable. Il y a des gens qui n'adoraient même pas Dieu à Jérusalem. Lui, il est parti de loin pour venir adorer Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il cherchait Dieu à ce moment-là. Et là, il l'a trouvé. Je ne croyais pas. Donc, c'est ça. Et donc, il s'est rendu là-bas pour être touché par Dieu. OK? Il l'a fait pour Adonijah dans son temple, à Jérusalem d'Israël. C'est touchant. Moi, ça me touche énormément. Okay? Il y avait sûrement la diaspora qui parlait de Dieu, mais il reste qu'il l'a fait. Je ne sais pas si vous faites le lien. Peut-être que tout ce qui est arrivé avec Salomon, tout ce qui est arrivé avec la reine d'Éthiopie qui a rencontré Salomon, est-ce que vous réalisez que ça se peut que ce soit la reine qui a ramené ça chez elle en Éthiopie et qu'il y a eu un mouvement spirituel là-bas où les gens ont sont mis à croire en Dieu et adorer Dieu? Moi, je crois fortement que lui, c'est le fruit de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce que Dieu avait dit. Okay? Ce que Dieu avait dit. Et si on revient dans le passage 1 Roi 8, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Donc, l'Éthiopien est allé dans la maison, le temple. C'est sûr que c'est le deuxième temple qui a été construit par Hérode, mais il reste que c'est le temple de Dieu quand même. Il s'est déplacé pour aller là, et là, il va être touché par Dieu. Moi, ça me remplit d'émotion, parce que ça veut dire que Dieu est à l'écoute. Ça veut dire que si tu cherches, tu vas trouver. Si je cherche, je vais trouver. Si je demande, je vais recevoir. Parce que lui, quand il est allé en Éthiopie, c'est incroyable. Dieu a tenu ses promesses. Oui, il est le rocher qui cherche et trouvera, non? C'est ça qu'il dit. Est-ce que cela bâtit en vous, ça bâtit une confiance en vous? Regardez la prochaine étape, le prochain point. Il cherche à comprendre la parole de Dieu. Donc, quand il s'est déplacé troisièmement, il cherche à comprendre. Quand il revient avec l'expérience d'avoir été adoré Dieu, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que Dieu agit. N'oubliez pas, on est dans le Nouveau Testament à ce moment-là. Il y a eu des choses qui se passent. Jésus est ressuscité. Il y a les disciples qui parlent de Jésus. Il y a Pierre qui a prêché. Des gens ont été convertis. Donc, il se passe des choses. Il cherche Dieu. Il veut le voir. OK? Et là, il cherche à comprendre ce que Dieu a dit. Okay? Il cherche à comprendre la parole de Dieu. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Ésaïe 53. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas savoir le contexte, mais il a sûrement été à Jérusalem et lorsqu'il est allé adorer Dieu, il a trouvé comme, il y a une nouvelle croyance, il y a quelqu'un qui parle de Jésus. Il a peut-être entendu en se promenant dans son char quelqu'un en train de prêcher que Jésus a été mené comme une brebis à la boucherie. Il dit, oui, allez lire Ésaïe 53. Lui, il a retenu ça. On ne sait pas. Ce n'est pas le contexte. Mais ce qui est important, c'est qu'il cherche encore. Il cherche à travers ce passage à comprendre de qui on parle ici. Et ce passage-là, c'est la bonne nouvelle. Alors, il faut faire le lien. Okay? Il faut faire le lien avec Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus? Est-ce que vous savez que Jésus sauve, que Jésus est là pour vous libérer, vous toucher? Okay? Et c'est très, 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 très simple. Très, très simple d'être touché. Okay? Et comme le contexte de la reine de Saba qui a été touchée par Dieu à travers Salomon, bien là, l'eunuque va être touché à travers Philippe pour recevoir cette parole. Et on va en parler au prochain. On va revenir là-dessus. On va aller parler de Ésaïe 53 un peu plus et un peu ce que Jésus a fait. Mais moi, ce que j'avais le goût de vous demander, okay, ce que j'avais vu pour l'instant, c'est que vous sachiez que Dieu vous aime. Que Dieu est là comme la reine de Saba, de Saba qui s'est déplacée pour aller voir Salomon. Dieu l'aimait, cette personne-là, pour qu'elle soit touchée, pour qu'il puisse répondre à ses questions, à son cœur, parce qu'elle cherchait, elle l'a trouvé à la fin. Parce qu'elle a dit, elle était hors d'elle-même. Elle a reçu le message de Dieu. Elle a été rassasiée, elle a été elle a trouvé la réponse. Mais c'est la même chose pour l'eunuque, parce que lorsque Philippe va s'asseoir, il va lui parler de Jésus-Christ. Il va lui dire que cette personne, c'est Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix, qui a souffert, qui a donné sa vie pour nous afin qu'il prenne nos péchés. Est-ce que toi, tu es rendu là? Est-ce que toi, tu es rendu là? Si tu cherches, tu le trouveras. La parole dans Romains 10, versets 8 à 9, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu fais. Mais si tu m'entends, si tu écoutes ce message-là, c'est parce que Dieu te parle. Il y a un moment, une expérience spirituelle que tu vis présentement, et Jésus te cherche. Et c'est tout simple, c'est gratuit. Si tu le reçois, tu vas être touché. Peu importe, OK? Si tu le cherches, tu le trouveras, peu importe où tu es rendu dans ta vie, OK? Peu importe ton passé, ce que tu as fait, on le dit souvent, tu ne connais pas Dieu ou Jésus, c'est pas grave. Si tu es loin, si tu t'es éloigné de lui, OK? Comme il a touché l'eunuque, il peut te toucher. On va le voir dans le prochain message. J'espère que vous allez être là. Je vous encourage à être là la prochaine fois. Et tous les autres messages qui vont suivre là, dans les prochains dimanches, je vous encourage à les écouter. Mais je vais donner la suite au début mai. Et donc, je vous encourage à être là. On va en parler. Mais il peut te toucher maintenant. Maintenant. Et le message de Jésus n'est pas si loin. Il est proche. Il est juste proche. Tu peux l'accepter. Tu as accepté Jésus proche de toi, tu as juste à laisser dans ton cœur, laisser Dieu agir dans ton cœur à travers Jésus-Christ. Okay? Il est juste et bon à Dieu de nous pardonner, il ne faut pas s'inquiéter. Peu importe qui tu es, hein, le ministre de ci, le travailleur de ça, l'ouvrier, l'enseignant, le médecin, peu importe, on est tous égaux et on est tous pareils. On a tous besoin de Jésus parce que nos péchés sont les mêmes que tous. On est loin d'être parfait. Nul n'est correct devant Dieu. Il faut accepter, s'humilier devant Dieu et dire, « Oui, Seigneur, j'accepte ta solution de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui a été crucifié. » Je vous encourage, il va y avoir un Pâques qui s'en vient bientôt, il va y avoir des films de Jésus de Nazareth. Je vous encourage à aller lire l'histoire dans la Bible, aller vous imprégner de la présence de Dieu et de vous informer sur Jésus-Christ. Je vous le dis, Jésus-Christ vivant, il est réel, il est ressuscité des morts. Il faut faire un choix dans notre cœur un jour, et c'est ça qu'il faut. Peu importe ce que tu es, il faut faire un choix. Et troisièmement, peu importe à quel moment et comment, on va le voir le comment dans le prochain message, mais peu importe à quel moment, c'est maintenant, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Jésus est là pour nous, il faut se laisser toucher. En terminant, en conclusion, « Et toi, Salomon, mon fils, » dans 1 Chronique 28, 29, on l'a dit tantôt, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. Vous êtes là, vous écoutez le message, là. Mais Dieu sonde votre cœur. Vous entendez peut-être quelque chose dans votre esprit en disant, hey, écoute, fais-le, choisis, je t'aime. Tu dis, wow, ça vient d'où? Mais c'est l'Esprit qui te parle, parce que Dieu est vivant, Jésus est vivant. Pénètre tous les desseins, tous les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu cherches, tu trouves. C'est ça le message. Et dans Matthieu 7, « Demandez, l'on vous donnera. » Jésus a dit, « Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Encore une fois, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est le message, la première partie du message que je voulais vous amener. Et donc, naturellement, je vais vous demander, comme l'eunuque qui cherchait et qu'on va voir dans le prochain message comment que trouver Jésus-Christ, bien, vous pouvez faire le choix maintenant. Comme Salomon a pu transmettre le message à la reine de Sheba, à laquelle ce qu'elle cherchait, elle a trouvé la réponse. Vous pouvez trouver. Si vous cherchez, vous pouvez trouver. Il suffit juste de le confesser. Donc, en terminant, on va juste faire la prière de repentance qu'on dit, c'est-à-dire de donner son cœur à Jésus. Je vous encourage à le faire, à prier aussi. Pour ceux qui l'ont déjà fait, de prier pour quelqu'un d'autre, que si jamais qui écoute, puisse être touché ou qui vont écouter le message une autre fois. Fait que juste fermez les yeux, laissez-vous imprégner. Ce n'est pas moi qui est important, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui est important, c'est l'Esprit. C'est Dieu qui va vous parler comme il a fait. Il sait s'occuper de nous, Jésus. Il sait s'occuper de nous, Dieu et l'Esprit Saint. Il n'a pas besoin de nous, mais il faut juste répéter après moi et ça va vous encourager à le faire. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que Parce que j'ai mon cœur ouvert. Parce que je cherche et je veux trouver. Seigneur, je te demande de venir toucher mon cœur et de me transformer. Lave-moi de tous mes péchés. Touche mon cœur. Transforme-moi. Je te donne ma vie, Seigneur. Je me retourne de mon ancienne vie et je marche dans tes voies maintenant. J'ai cherché et je veux trouver. Viens toucher mon cœur. Merci, Jésus. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts. Je te crois vivant aujourd'hui. Parce que je te crois, je reçois en moi ton amour. Merci, Jésus. Merci. Savez-vous qu'il y a des anges en haut qui sont en train de se réjouir de ce que vous venez de faire? Moi, je suis tellement excité, je suis tellement touché par ce que je viens de vous partager. C'est un message simple. On va continuer, on va parler. Vous allez voir, il y a d'autres passages. Ce n'est pas un passage qui est terminé, c'est un passage vraiment complet. Je vous demande de lire la parole de Dieu, lire Jean en premier, si vous avez fait le choix pour la première fois. Si vous êtes un chrétien qui s'est éloigné maintenant, vous êtes rapproché de lui, bien, allez lire Jean encore. Si vous voulez avoir, c'est un message d'amour simple. Et je vous encourage fortement à suivre Jésus-Christ. Et on se revoit prochainement pour la suite du message de cette série. Cherche et trouve. Amen. Je vous laisse. Bonne fin de journée. Au revoir.